Bonjour à vous tous, merci d'être venus. Daniel Fay, merci aussi de votre présence à Bordeaux. Tout d'abord, je vais vous faire une brève présentation de Daniel Fay. Il est docteur en histoire des religions, maître de conférences en histoire juive à l'université de Bar-Ilan, Bar-Ilan, rattaché au CNRS. Vous êtes aussi chercheur associé à l'université de Provence. Vous intervenez régulièrement à l'Amitié judéo-chrétienne de France. Vous êtes également l'auteur d'ouvrages remarqués comme « Jésus sous la plume des historiens juifs »,« Le Talmud et les origines juives du christianisme »,« Jésus, Paul et les judéo-chrétiens dans la littérature talmudique » et « Le judaïsme et l'avènement du christianisme » notamment. Et vous participez régulièrement, j'ai vu aussi, aux ouvrages de la collection Biblia. Mmh. Mais aujourd'hui, nous sommes ici pour la présentation de votre dernier ouvrage « Femmes et familles dans le Talmud », essai sur l'interprétation et la culture talmudique, paru aux éditions du CERF. Dans cet essai, vous cherchez à comprendre quelles sont les modalités du raisonnement du Talmud, avec ses cheminements qui lui sont propres, ses particularités, mais aussi ses incohérences. Première précision pour savoir de quoi on parle, qu'est-ce que le Talmud ? En deux mots, est-ce que vous pouvez situer pour notre auditoire ce qu'est le Talmud ?
Avec plaisir. Bonsoir à tous. Le Talmud, pour le dire de façon relativement schématique, le Talmud, en fait, c'est l'interprétation, ce sont les développements du texte biblique. Mais il ne suffit pas de dire qu'il s'agit de développement, voire d'extrapolation. Il faut ajouter que le Talmud, en fait, je dirais, agresse le texte biblique, dans le sens où le texte biblique est, pour l'esprit juif de l'Antiquité, inintelligible. Il n'est pas palpable, il n'est pas compréhensible. Et ainsi, on se doit de le scruter afin de lui conférer une certaine ampleur, un certain développement. Et ainsi, vous parliez d'incohérence à l'instant, et vous avez pleinement raison de le faire. Et ainsi, effectivement, nous lisons dans le Talmud, dans différents domaines qui sont ceux de la Bible, et notamment du Pentateuch, des développements, des extrapolations, des interprétations, des modalités discursives, etc. On va essayer de scruter, d'interpréter, d'éclairer un verset biblique, et cela sous différentes latitudes, si vous voulez.
Alors, le Talmud va être composé de la Mishnah, qu'on appelle la loi orale,
oui,
qui va viser à expliciter les enseignements de la Bible. Alors, oui, la Bible juive, c'est, s'appelle la Torah. La Torah, c'est-à-dire, c'est le Pentateuch, c'est-à-dire les cinq livres de la Bible que vous connaissez, chrétienne.
Absolument.
Et donc, le Talmud est composé de cette Mishnah et de la Gemara, qui est un commentaire de la Mishnah. La Mishnah va se composer de débats internes entre les sages des premiers siècles de notre ère. Débats, et c'est leur particularité, qui ne sont pas tranchés et qui se présentent comme des controverses sur l'interprétation à donner à un enseignement sans que la conclusion pratique soit énoncée. Et c'est ça c'est une grande originalité. Ces interprétations multiples nous renseignent sur la réalité du monde talmudique. Et vous montrez, Daniel Fay, que les sages ne se sont pas contentés de mentionner clairement la règle ou l'observance qui découle de ces débats, mais ils ont voulu proposer une Torah, comment dire, inachevée, ouverte aux interprétations multiples de ceux qui l'étudient, comme une terre à explorer et à retourner sans cesse pour en découvrir tous les trésors. Alors tout d'abord, l'homme est-il, selon les sages, chargé de s'approprier la Torah divine pour la ramener sur terre à hauteur d'homme?
Alors voilà, oui, effectivement, la question est tout à fait lieu d'être et est pleinement pertinente. C'est-à-dire que, essayons d'abord, pour vous répondre, de contextualiser, d'essayer de comprendre un peu le contexte historique qui a vu l'émergence donc du Talmud. Nous sommes donc à une époque de troubles. Nous sommes après la destruction du second temple de Jérusalem au premier siècle de l'ère chrétienne, alors que le monde juif a vécu un véritable cataclysme, qu'il va vivre l'exil, qu'il va vivre les affres de ce qu'est une guerre avec tout ce qu'elle a, d'effroyable. Et les dirigeants progressifs de la société juive après cette destruction du temple, donc qu'on appelle communément les sages du Talmud, vont vouloir redynamiser cette société. Mais ils vont le faire non pas au travers de normes politiques, mais au travers de normes interprétatives, au travers de ce que l'on va appeler le texte comme élément en fait central de la vie juive. Bon. Et le texte talmudique, effectivement, sera porteur de nouvelles démarches, de nouvelles interprétations, aura comme visée eh bien, l'élaboration d'un nouveau modèle sociétal au premier siècle de l'ère chrétienne. Mais, et cela est très intéressant pour vous répondre, effectivement, dans l'esprit talmudique, dans cette période de trouble dont je vous parle, eh bien, la parole divine est considérée comme étant, enfermée sur elle-même. C'est-à-dire que la parole divine, la parole biblique, n'est pas audible. On ne peut pas la comprendre, et ainsi il faut l'articuler, et il faut l'interpréter. Mais l'interpréter d'une part de façon inachevée, hein, sans qu'il y ait véritablement eh bien, de moment où l'on puisse dire « le commentaire est terminé, nous avons dit tout ce que nous devions ou tout ce que nous pouvions dire sur le texte ». Au contraire, on considère en fait que l'interprétation eh bien, s'échelonne au fil de l'histoire et un peu comme une œuvre d'art, c'est une grande œuvre d'art parce qu'elle est justement par excellence inachevée. Et parallèlement, ce qu'on peut dire, c'est que la vision, la perspective talmudique eh bien, est laissée à l'homme. C'est-à-dire que ce n'est plus le divin qui s'exprime, mais c'est l'homme dans sa subjectivité, dans tout ce qu'il a, eh bien, j'allais dire, d'humain, hein, un peu cet autrement qu'être ou au-delà de l'humain, comme disait Lévinas, eh bien, c'est à l'homme d'interpréter le texte biblique. C'est-à-dire que le Talmud ira même jusqu'à dire, et cela pourra paraître quelque peu grandiloquent, le Talmud ira même jusqu'à dire que la Bible, finalement, la révélation divine n'appartient plus au divin. Dieu révèle un texte, mais c'est à l'homme de le commenter, à l'homme de l'explorer, à l'homme de l'éclairer. Et c'est, je crois, effectivement, mieux que tout autre, la démarche qui caractérise la littérature talmudique.
Je vous cite là, vous citez vous-même Deutéronome 30 en disant que la loi n'est pas dans les cieux ni au-delà des mers, car la parole est tout près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur pour que tu la mettes en pratique. Et il est dit aussi dans un psaume, car il sera avide de la Torah de Dieu et méditera sa Torah jour et nuit. Pas la Torah de Dieu, la sienne.
Absolument.
Il se l'est complètement approprié.
Absolument.
C'est-à-dire, et de la même façon que l'homme, dans la création, est amené à parachever la création divine, absolument, de la même façon, la Torah doit être parachevée par l'étude et la méditation.
Absolument, hein, je me retrouve parfaitement dans vos propos, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de parachèvement, une volonté de complément, une volonté, j'allais dire, de donner vie à un texte qui ne doit pas rester dans l'univers stricto sensu du divin, d'où le psaume que vous avez cité, la révélation divine ne fait plus, n'appartient plus exclusivement à Dieu, mais devient donc du domaine de l'homme, et de la même façon, la Torah n'est pas dans les cieux, d'ailleurs, votre remarque me rappelle un texte talmudique éminemment connu et extrêmement édifiant, où en fait on assiste à une querelle, à une controverse entre différents maîtres du Talmud, et un des maîtres évoque en fait un bouleversement du cycle de la nature pour en fait appuyer son propos, c'est-à-dire qu'il fait des miracles. Et les autres sages, au lieu d'être subjugués, puisque des miracles sont là, Dieu s'en mêle, on assiste même à l'émergence d'une voix divine qui en fait émane des cieux et dit « Écoutez, laissez tranquille ce sage, il a raison quand il interprète un verset biblique de cette façon, eh bien, le divin est d'accord avec lui. » Et les autres sages au sein de la maison d'études, au lieu d'être littéralement interloqués par le fait que Dieu s'en mêle, eh bien, au contraire, rejettent ce sage de la maison d'études et lui disent « Non, 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 ce n'est plus à Dieu à interpréter son propre texte, mais c'est à nous, les hommes, auxquels ce devoir incombe. »
Et dans votre ouvrage, vous cherchez à comprendre comment les sages, donc les rédacteurs du Talmud, se confrontent à des passages problématiques de la Bible. Et comment ils commentent ces passages qui vont juger peu viables en leur donnant des sens nouveaux. Et quelquefois même en rendant caduque la loi proposée par ces textes.
Absolument. Voilà. C'est effectivement la... Écoutez, je souhaite à chaque auteur d'être lu aussi bien que ce que vous m'avez lu. C'est exactement le point saillant de ma problématique. C'est-à-dire que ce qui m'a intéressé est de comprendre la transition qui s'opère depuis la Bible jusqu'au Talmud. Alors, le Talmud, bon, on l'a dit, est une littérature donc, qui est contextualisée à une époque donnée. Des hommes composent cette littérature et des hommes doivent se confronter au texte biblique. Là, on assiste en fait à une aporie, comme on pourrait dire en philosophie. On assiste à une confrontation extrêmement intéressante. Pourquoi ? Essayons de nous replonger dans le contexte historique. On est à une époque de troubles, on cherche à redynamiser une société, à faire en sorte que la société juive subsiste après la, la destruction du temple. Et on a un texte, la Bible, le Pentateuque, la Torah, qui est un texte divin pour les sages du Talmud, mais qui ne nous parle plus. C'est-à-dire qu'il y a des versets dans ce texte qui, en fait, ne sont plus applicables à proprement parler. C'est-à-dire que des versets qui, même sur le plan éthique, eh bien, ne sont pas viables, comme vous l'avez dit, effectivement. C'est-à-dire qu'on lit certains propos, et je fais référence à des péricopes relatives à la femme et à la famille, on en parlera par la suite, si vous le voulez bien, où effectivement, les sages du Talmud lisent ces textes et cherchent une modalité interprétative pour s'y confronter. Est-ce que la Bible nous parle encore, si je devais le dire de façon un peu publiciste ? Et ce que vont faire les sages du Talmud, c'est qu'ils vont en fait opter pour une nouvelle forme interprétative, de nouveaux commentaires, pour contourner le sens de la Bible et lui conférer un tout nouvel éclairage. Et ce nouvel éclairage, que j'essaie d'explorer au travers de certaines thématiques dans mon livre, ce nouvel éclairage, en fait, va leur permettre d'être plus en adéquation avec le modèle sociétal qu'ils veulent ériger.
Alors, vous illustrez votre propos par des exemples particulièrement dérangeants pour nos consciences contemporaines. Alors, il s'agit, vous connaissez sans doute, l'histoire de l'enfant dévoyé et rebelle qui doit être lapidé. L'histoire aussi de la femme soupçonnée d'adultère à qui le mari jaloux va pouvoir imposer un rituel particulièrement avilissant pour prouver son innocence. À travers l'un de ces exemples, pouvez-vous nous montrer comment s'effectue ce processus de déconstruction-reconstruction du texte par les sages des premiers siècles ?
Oui, alors voilà, vous citez deux exemples qui sont des exemples centraux. Alors, prenons comme premier exemple les versets donc bibliques relatifs aux fils dévoyés et rebelles. La Bible, dans le livre du Deutéronome, qui est le cinquième livre biblique, hein, au chapitre 23, me semble-t-il, nous parle d'un enfant qui n'écouterait pas ses parents et qui ainsi désobéirait à ses parents. Et le texte est assez laconique, et il nous dit, s'il n'écoute pas donc la voix de sa mère et de son père, eh bien sa mère et son père s'en saisissent, le livrent aux anciens de la cité, aux prêtres, et le prêtre dit, donc en le montrant du doigt, cet enfant est dévoyé et rebelle, et cet enfant est donc livré à la lapidation, il est mis à mort, et ainsi la ville assiste à cette mise à mort et craint le Seigneur. Alors, ça, ce sont des versets bibliques. Alors, les sages du Talmud, tout comme nous, sont un peu interloqués, vous voyez, on meurt éberlués par de tels versets. Peut-on mettre à mort tous les deux jours un enfant qui désobéit à ses parents ? Est-ce une façon d'éduquer son enfant qui ne serait pas trop radicale, si vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, effectivement, ce que vont faire les sages du Talmud, c'est qu'ils vont réinterpréter tout ça. En fait, ils vont lire ces versets et se rendre compte que, d'abord, ça ne correspond pas au modèle de société qu'ils veulent mettre en place. De surcroît, eh bien, ça ne correspond pas non plus à leur conception éthique. Mais il y a ici un déchirement interne, parce que ce texte qui ne correspond pas à leur conception éthique, à ces sages du Talmud, est le texte biblique. Or, le texte biblique est divin. Vous voyez ? Donc il y a ici, si vous voulez, une tension, hein, je crois que c'est le terme, une tension, où d'une part Dieu se révèle, mais la révélation ne nous satisfait pas. Et on ne peut pas la vivre, on ne peut pas l'appliquer. Donc, que fait-on ? Alors, on ne peut pas l'effacer, hein, comme on ferait sur un copier-coller sur nos ordinateurs. Alors, que fait-on ? Mais en fait, les sages du Talmud vont opter pour une réécriture, pour une revisitation du texte biblique, en fait, en le comprenant à nouveau frais, en lui conférant de tout nouveaux éclairages. Alors, dans le cas de ce fils dévoyé et rebelle, par exemple, eh bien, on va émettre des critères qui seront extrêmes, voire absurdes, pour rendre le cas absolument pas applicable, hein, pour qu'il ne soit pas concrétisable dans le réel, et ainsi laisser le texte biblique en l'état, mais lui conférer une toute nouvelle portée, voire en déraciner sa substance, voyez, de façon à ce qu'on puisse, eh bien, tout en gardant la lettre en tant que telle, en changer l'esprit. Voilà. Alors, vous m'avez interrogé également sur la femme soupçonnée d'adultère, là aussi, hein, il faudrait se référer donc au livre des Nombres, chapitre 5, où effectivement, on nous parle dans le texte biblique, et le texte est pour le coup assez lapidaire d'ailleurs au deux sens du terme, dans le sens où on nous parle, comme vous l'avez dit, d'un homme qui serait pathologiquement jaloux de sa femme, enfin c'est moi qui rajoute pathologiquement, et du fait de sa jalousie, eh bien, acheminerait son épouse devant le grand prêtre, et du fait d'un soupçon qui planerait sur elle, émanant de son époux, un soupçon qui en fait serait celui de l'homme parce qu'elle serait comprise par lui comme étant adultère. Donc il la soupçonne de l'avoir trompée, pour le dire très, très simplement. Et alors le grand prêtre lui administre des eaux amères de malédiction, selon ce que nous dit la Bible. Et ainsi, eh bien, elle boit ces eaux. Si son ventre explose, eh bien, c'est qu'elle est coupable. Si son ventre n'explose pas, hein, ce qui est souhaitable, c'est qu'elle n'est pas coupable. C'est ce que nous dit la Bible. Alors que fait-on avec un tel texte? Je vous vois sourire aujourd'hui, je souris également. Et la question que je me suis posée dans ce livre, c'est qu'ont fait ces gens qui se sont trouvés avec un temple détruit, une société qui partait un peu dans tous les sens, et un texte qui est divin malgré tout, mais qui ne nous parle pas. Et je crois que les sages du Talmud sont peut-être des réformateurs avant la lettre. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont compris que pour qu'une identité collective puisse subsister, je dis bien une identité collective puisse subsister, voire puisse perdurer, eh bien il faut nécessairement, je dis bien nécessairement, réformer de l'intérieur le texte. Parce que le texte divin, aussi bien divin soit-il, n'est pas applicable à toutes les époques, n'est pas intelligible, n'est pas appréhensible à toutes les époques de la même façon. Et ainsi, concernant cette femme soupçonnée d'adultère dont nous parlions, eh bien là aussi, hein, ils vont élaborer toute une herméneutique, toute une exégèse, une interprétation du texte pour donner à ce texte, lui conférer une toute nouvelle portée, de toutes nouvelles interprétations. Évidemment, il ne s'agira plus de cette cérémonie avilissante, etc., où elle sera mise à mort, mais une volonté de placer la femme, tout en la mettant en garde, aussi bien d'ailleurs que l'homme sera mis en garde, de construire un nouveau modèle, j'allais dire, de famille microcosmique au sein de cette société qui cherchera à se restructurer.
Ces textes nous en apprennent beaucoup sur les fantasmes de l'époque, sur les fantasmes de ces sociétés des premiers siècles.
Absolument. Ils nous en apprennent beaucoup sur les fantasmes des rédacteurs de ces textes, absolument. Sur la vision qu'ils pouvaient avoir donc, de la famille, de la femme, de la sexualité. Et j'ai également un chapitre sur cette question-là. Hein. Je crois que je dirais non plus parler d'interprétation textuelle, mais de méthodologie. Je crois que la question que nous devons nous poser, nous, modernes, qui lisons ces textes, et ceci est valable, je crois, pour les textes des religions monothéistes, des trois religions monothéistes, hein, le christianisme, sur lequel je travaille également, l'islam, que je connais beaucoup moins, et également le judaïsme, en tout cas pour les textes fondateurs. Je crois que la question qu'il faut que nous nous posions, entre autres, est de savoir pourquoi un texte a été introduit dans un canon biblique ou dans une littérature fondatrice. Pourquoi a-t-on choisi à une époque donnée de choisir, à une époque où on rédigeait ces textes, hein, où on les composait, où on les compilait. Le Talmud a été rédigé durant des siècles d'histoire, en Palestine romaine ou en Babylonie. Et là, certains rédacteurs ont choisi, sous forme de recoupement des textes, pour établir cette littérature. Et la question que je me pose souvent, c'est pourquoi, quel était l'esprit qui animait ces gens-là? Quel était l'esprit qui a animé ces gens-là pour avoir choisi d'introduire délibérément ce texte-ci et pas un autre texte? Quel message finalement interne et peut-être dissimulé, voyez, cherche-t-on à transmettre? Et je crois que ce choix délibéré de choisir un texte, qui souvent d'ailleurs dessert les intérêts de ses auteurs, est ou de l'ordre d'une autocritique, ou alors de l'ordre d'une transmission d'un certain message qu'il nous faut essayer de déceler, voyez. Mais un texte n'est jamais anodin. C'est-à-dire que s'il a été choisi et incorporé au sein d'un corpus, qui est un corpus biblique, talmudique, coranique, néo-testamentaire, que sais-je, eh bien c'est qu'il y a une volonté délibérée de ceux qui ont rédigé et compilé ces corpus.
Il y a un choix idéologique très net qui va donc présider à la rédaction, à la réinterprétation plutôt, du texte biblique, son interprétation. Aujourd'hui, on pourrait dire, ces sages du Talmud ont été très courageux de réinterpréter un texte qui ne répond plus à leurs exigences éthiques. Il y fallait du courage à leur époque. Ce même courage, est-ce qu'on le trouve aujourd'hui dans le milieu rabbinique pour réenvisager, pour réétudier le texte, pour le creuser de nouveau, notamment pour réenvisager la place de la femme au sein du judaïsme?
Question délicate s'il en est. Écoutez, Alors, moi-même, je ne suis pas donc rabbin ni versé dans les milieux rabbiniques pour pouvoir parler à la place de ces gens-là, mais ce qu'il me semble, encore une fois, mais c'est un regard, j'allais dire, d'amateur que je vous livre, ce qu'il me semble, c'est qu'aujourd'hui, d'abord, le judaïsme est partagé par différents courants. Alors, c'est peut-être beaucoup moins représenté en France. En tout cas, en Israël et surtout aux États-Unis, il y a différents courants qui sont... plus orthodoxe, moins orthodoxe, plus progressiste, moins progressiste, certains libéraux, réformés, etc. On a une scale assez différente donc, d'approche et d'interprétation des textes. Et selon les courants, hein, ce sont des courants qui sont effectivement un peu plus modernes, plus progressistes, une place de plus en plus conséquente est faite à la femme et au sein de la maison d'études, et au sein de la synagogue, et même du point de vue de la lecture de la loi en fonction des doléances de la femme. Et aujourd'hui, je crois, enfin, en tout cas, pour, vu que je suis entre la France et l'État d'Israël, je vois effectivement, enfin, de par ce que je peux anthropologiquement constater, on assiste effectivement à une forme d'ébullition où la femme ne veut plus être... cantonné, pourrait-on dire, aux tâches, j'allais dire, qui sont celles que les anciens lui ont réservées. Et on a une demande, une doléance, une véritable exigence qui est prise en compte par un certain monde rabbinique éclairé, qui n'est pas majoritaire, bien malheureusement, mais qui existe. En tout cas, on a une voix féminine qui se fait entendre, voilà, et de plus en plus.
Ça n'était pas un hasard si... Le choix, votre essai sur l'interprétation et la culture talmudique, s'est fait à partir d'exemples femmes et familles.
Oui, c'est-à-dire que la thèse que j'entends défendre dans ce livre, c'est de dire que la famille, et donc la femme au sein de la famille, est un élément microcosmique qui peut nous renseigner sur un élément macrocosmique. Alors, dit autrement et plus simplement, ce que je veux dire, c'est que les sages qui entendent, pour le dire en une phrase, hein, qui entendent eh bien, reconstruire, la société juive qui a vécu un ébranlement profond avec la guerre effroyable contre les Romains de 66 à 70, dont nous parle d'ailleurs Flavius Joseph, eh bien, ces sages qui vont vouloir reconstruire cette société juive vont se fonder sur un modèle de famille, un modèle microcosmique de famille, qui sera en fait un modèle, une forme d'exemple, de modèle à élaborer, et qui en fait sera le modèle qui permettra l'émergence ou la constitution d'une société au sens beaucoup plus général. C'est-à-dire que pour eux, la famille n'est pas seulement à entendre comme un modèle de droit privé, dont nous parlions hier, mais un modèle effectivement qui serait un modèle à suivre et dans lequel essayer de trouver ses repères pour construire un nouveau modèle sociétal. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle énormément de textes du Talmud ne sont pas à lire comme des textes qu'il faut interpréter littéralement, qu'il faut concrétiser littéralement, mais comme des mises en garde, comme des réflexions, comme le langage de l'exagération, de l'extrapolation. Parce que pour eux, la reconstruction de la société passe précisément par la famille, par l'enfant au sein de la famille, par la femme, par le modèle familial. Et je crois que cette relation dialectale entre le micro et le macro est très importante pour bien comprendre ces textes, qui sont ces textes du 2e, 3e et 4e siècle.
Bien. Est-ce qu'il y a un exemple pour répondre à la curiosité peut-être de l'auditoire, un exemple précis de construction des constructions, un petit peu plus précisément que tu pourrais reprendre dans le texte.
Un exemple donc de cette transition entre la Bible et le Talmud de déconstruction du texte biblique.
Exactement, en prenant un exemple plus précisément pour que les gens appréhendent plus précisément comment ça se passe.
Alors prenons un exemple des plus significatifs. Vous savez, le Talmud cherche en fait à interpréter les termes, la ponctuation, la syntaxe, tout ce qui est interprétable du texte biblique. Et le texte dont je parlais de Deutéronome chapitre 23 concernant ce fils dévoyé et rebelle, nous dit, si vous lisez la Bible, nous dit donc si un enfant n'écoute pas la voix de son père et de sa mère. Et donc, les sages s'interrogent. Pourquoi la voix de son père et de sa mère? Pourquoi n'est-il pas écrit la voix de ses parents? Pourquoi est-il précisé père et mère? Et donc, en fait, ils vont nous dire que pour eux, pour qu'un enfant soit dévoyé et rebelle, soit mis à mort, sachant qu'ils ne veulent pas en amont qu'il soit mis à mort, il faut donc qu'il n'écoute pas la voix de son père et de sa mère. Donc, il faut qu'il parle en même temps. Vous voyez? Comme s'il y avait une cacophonie possible du point de vue de l'audibilité à la maison. Et si toutefois il parle en même temps, et qu'à ce moment-là, quand il parle en même temps, et le père et la mère confondus, s'il ne les écoute pas, alors il pourrait être éventuellement considéré comme étant dévoyé et rebelle. chose absolument impraticable. Autre exemple, et là, allons, j'allais dire, dans des exemples qui sont, enfin, qui en deviennent risibles parce qu'absurdes. Le texte biblique dira, les parents se saisissent, le père et la mère se saisissent cet enfant. Et là, on va nous dire, attention, il faut qu'il soit capable de s'en saisir. Si, par exemple, l'un des deux boite, il ne peut donc pas courir vers son enfant et s'en saisir. Ou si l'un et l'autre est manchot. On va même jusqu'à nous dire que pour que cet enfant soit considéré dévoyé et rebelle, il faut que la voix, du point de vue du timbre de voix, soit exactement identique entre l'homme et la femme, ce qui est absolument impraticable. Et là, on entre dans un univers qui est l'univers, quelque part, de l'ironie toute talmudique, dont ses rédacteurs ont le secret, et qui, en fait, va pousser, j'allais dire, le raisonnement dans ses plus extrêmes retranchements pour, sans toutefois effacer le texte biblique initial, le rendre absolument inapplicable. Et c'est, je crois, cette tension qui est très intéressante, qui est une tension du croyant, d'ailleurs, aujourd'hui, hein, qui est très intéressant également sur le plan psychologique, voire sur le plan dont je parle beaucoup avec mes étudiants, d'ailleurs, qui est celui du phénomène du croire, d'ailleurs, voire de la pratique religieuse, et non seulement dans le judaïsme, mais également dans l'islam ou au sein du christianisme, à savoir, le texte ne me parle plus, mais malgré tout, en amont, j'y adhère. Parce que je le considère comme étant de nature divine, révélée, etc. Mais il ne me parle plus en tant qu'être. Donc comment dois-je m'y confronter ? Je ne peux pas en être le dépositaire, voire le réceptacle. Donc je ne peux pas le mettre en application. Mais de façon, j'allais dire, paradoxale, voire antithétique, ce texte est pour moi vecteur d'une constitution identitaire, voire d'une révélation divine et autre. Donc comment, résoudre cette antithèse, comment résoudre cet antagonisme, etc. Et là, on a affaire à une question, effectivement, qui est une question extrêmement intéressante, qui découle de présupposés psychologiques beaucoup plus qu'historiques ou sociologiques, mais qui est effectivement fascinante.
Le texte ne parle pas à une génération, à une époque donnée. Il peut parler à une autre génération qui va l'interpréter de façon particulière. C'est-à-dire, c'est un texte qui va être construit, déconstruit, sans cesse, au fil des ans et au fil dans l'espace et dans le temps. Par exemple, on a l'histoire d'un Moïse qui veut pas mourir et Dieu va le reporter dans le futur, va le faire assister à un commentaire de Rabbi Akiva. Moïse ne comprend rien. Et il dit, mais enfin, comment ça se fait? Et pourtant, à la fin, Rabbi Akiva dit, et je parle au nom de Moïse. C'est-à-dire que, effectivement, selon les époques, il y a une interprétation complètement différente, plus riche, etc., qui peut être faite du même texte.
Oui, absolument. C'est-à-dire que la vision talmudique est de dire que la loi, bien qu'elle soit divine, n'est pas monolithique. C'est-à-dire qu'elle n'est pas atemporelle. Elle doit être, pour être viable, pour être même audible, il faut qu'elle soit absolument interprétée. Et ainsi, Moïse, qui est pourtant, d'après la Bible, le plus grand des prophètes, est propulsé dans l'histoire, dans un texte évidemment légendaire, un texte talmudique, hein, dans le traité de Menachot, est propulsé dans une maison d'études au deuxième siècle de l'ère chrétienne, et alors qu'un rabbin énonce son explication, son sermon, et ne comprend absolument rien. Pourtant, c'est Moïse. Et il ne comprend absolument rien jusqu'au moment, comme vous le rappelez, où effectivement le rabbin dit, non mais ça, il répond à un de ses disciples, et il dit, non mais ce que j'explique maintenant, je ne le sais pas parce que je ne l'ai pas compris de mon propre chef, mais c'est ainsi que ça a été révélé à Moïse sur le Sinaï. Et là, Moïse est quelque part assénéré et se rend compte en fait qu'il y a une forme de transmission ininterrompue, si vous voulez, mais cette de continuité, de continuum même, comme on dirait en latin. Et ainsi, comme vous le faites remarquer, ce continuum ne peut se faire qu'au travers de reconsidérations, de modifications, d'allègements, de recoupements, de questionnements, etc., etc. C'est-à-dire que je crois qu'une civilisation, mais bon, c'est déjà c'est déjà une autre réflexion, mais qui me paraît importante, à laquelle vous me conviez, c'est-à-dire qu'une tradition religieuse n'est viable que si, à mon avis, à mon humble avis, elle pratique deux données qui sont fondamentales, d'une part l'autocritique, et d'autre part le fait de constamment s'interroger sur les textes qui lui sont fondateurs, et de les travailler, de s'y confronter à nouveau frais, de les interroger, de considérer l'aspect subjectif de l'être en fonction de la lettre, etc., etc. Sinon, Nietzsche a raison et Dieu est mort.
C'est un livre passionnant que je vous recommande tous. Et on va remercier Dan Yaffe pour sa présentation de son excellent livre. Et je vous remercie aussi et je vous dis à une autre fois.
C'est moi qui vous remercie.
À bientôt peut-être pour un prochain livre.